Funérailles d'été, écrit par Anatole Lebraz. À Monsieur Louis Gandérax. Nous rentrions de la pêche au large avec le flot montant. Il faisait une de ces calmes et blondes soirées d'août qui revêtent les lointains, en Bretagne, d'une lumière infiniment douce, suspendue dans l'air comme une poussière d'or pâle. Le ciel profond et d'une amplitude immense se recourbait en voûte au-dessus des eaux. Le Saint-Yves filait d'une allure égale, un peu incliné sur son flanc droit, traînant derrière lui un fin sillage que le soleil couchant teintait de pourpre et projetant, en avant de la proue, sur la face à peine moirée de la mer, la silhouette élégante de ses deux focs harmonieusement gonflées. Héry Laouénan, le patron, fumait sa pipe, assis à la barre. Le reste de l'équipage, deux pêcheurs et un mousse, se tenaient accroupis dans l'ombre de la grande voile, les coudes appuyés au plat-bord. Tous se taisaient. À vivre constamment dans les mystérieuses solitudes du large, les marins de cette côte, fils d'une race d'ailleurs taciturne, prennent à la longue des habitudes quasi monastiques de silence. Je suis sûr que depuis le matin, en dehors des indications nécessaires pour les manœuvres, il n'avait pas été prononcé cinq paroles. Nous glissions sans effort sous la poussée d'une faible brise entre les îles qui parsèment ce coin de Manche dans les parages du Trégorois. C'est un des plus beaux paysages de mer que je connaisse. De toutes parts surgissaient autour de nous de gigantesques profils de pierre, des figures énigmatiques et colossales. Le rocher du château, avec sa toison de lichen, gardait l'entrée du port, dans l'attitude d'un sphinx de bronze vert, et, vis-à-vis, l'île Saint-Gildas dormait, paresseusement étendue à l'ombre de son bois de pin qui la fait ressembler à quelque salamine bretonne. Plus loin, vers le septentrion, s'égrenaient comme les têtes débandées d'un troupeau à la nage, les innombrables récifs épars le long du littoral de Plougrescan. Des vols de mouettes tourbillonnaient, pareils à une neige vivante, dans la transparence ambrée de l'atmosphère. Devant nous, l'âpre échine de la côte, de l'Armor pin vénanais, s'enlevait en noir sur le ciel pâlissant. Un calme délicieux baignait toute chose, et la houle elle-même roulait par grandes ondes lentes et pacifiques. La trépidation de la barque était à peine perceptible, on l'eût dite immobile, figée sur place, au milieu de l'enchantement universel, n'eût été la fuite incessante des roches qui, l'une après l'autre, passaient en un défilé d'ombres silencieuses, semblant remonter vers la haute mer. Soudain, une cloche tinta. Et comme s'il n'eût attendu que cet avertissement, un goéland solitaire, perché à la cime de l'écueil du four, battit l'air de ses longues ailes grises et s'envola. Les hommes, ôtant leurs surois, se signèrent. Le patron murmura « Dieu lui fasse paix ». Les autres répondirent en chœur « Amen ». « Ce n'est donc pas l'Angélus ?» demandai-je. « Écoutez, » fit Laouénan le doigt levé. Les tintements tombaient, espacés, monotones, avec de lourdes vibrations qui allaient se perdre au loin dans la profondeur de l'immensité vide. « Ne reconnaissez-vous pas le timbre de la cloche du Port-Blanc ? Elle ne sonne jamais qu'en deux circonstances, le jour de la fête de Notre-Dame et pour le glas d'un marin décédé. Dieu fasse le sort qu'il mérite à celui qui vient de mourir. Ce goéland que vous avez vu prendre son vol, c'était son âme qui partait. Je n'ai pas entendu dire qu'il y eut quelqu'un de malade dans nos alentours. Féchec cause, ce qui signifie Féchec le vieux. Depuis près d'une semaine, n'est pas sorti. Donc n'a pas pris la mer. Je lui ai rendu visite hier. Il m'a dit « Je suis au bout de ma chic ». Ou je me trompe fort, ou c'est son glas que nous entendons. Et, de nouveau, le patron se tut, et les hommes renfoncèrent leurs casques de toile huilés sur leurs figures graves, tandis que la cloche de la chapelle continuait de marteler le vaste silence à petits coups réguliers et plaintifs. Le soleil n'était pas encore complètement couché, quand nous accostâmes au débarcadère. un groupe de femmes stationnait près de la hutte du douanier de garde, sur un tertre à demi éboulé dominant le môle. Une d'elles, une grande fille brune à la peau rêche et bistrée, marbrée de rouge par les larmes, vint au-devant de nous dès que nous eûmes posé le pied à terre. Et, s'adressant à Henri Laouénan, « On t'attend chez nous pour ensevelir mon père. Il a eu sa connaissance jusqu'à la fin, et, au moment de mourir, il t'a désigné. À toi seul, paraît-il, il a donné ses instructions. » C'était Annie, surnommée Goémonvert, la fille de Féchec Coz. « Va dire que j'arrive, » répondit simplement le pêcheur. Il héla le mousse resté à bord pour ranger les agrès. « Passe-moi un décongre, petiot. » L'enfant lui tendit, en la soulevant par les ouïes, l'énorme bête gluante. Il la jeta sur son épaule avec l'aisance d'un Hercule dompteur de monstres, et nous nous mîmes à gravir le raidillon qui conduit au village.